Bon, il faut se le dire, la campagne de vaccination au Québec est un succès. Il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient parié là-dessus, je dirais, là, au mois de décembre l'année passée, au mois de janvier. Pourquoi? Ben, écoutez, c'est notre système de santé. On sait que le service à la clientèle dans les soins de santé n'est pas toujours optimal. Ben, le ministre Christian Dubé en a fait une obsession de faire de cette campagne de vaccination un succès. Le 22 juin, hier, a marqué sa première année comme ministre. Il est au bout du fil. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
OK, on va parler de... Écoutez, tout le monde a célébré le succès de la campagne de vaccination. Parlons un peu des problèmes quand même. La vaccination des jeunes, ça demeure un problème. On va décortiquer ça. Les 12-17 ans à Montréal, là, les statistiques sont sorties. Seulement 55 % sont vaccinés. Est-ce que le ministère est à court de solutions?
Pas encore. En fait, on a un taux global de 75 % pour les 12-17 à l'échelle du Québec, mais effectivement... À Montréal et à Laval, c'est plus bas. Il y a des grandes polyvalentes, par exemple, où on est passé peut-être au début du processus qu'il faut retourner. Dans certaines communautés culturelles ou religieuses, il y a des enjeux. On doit trouver d'autres façons. S'il faut que je retourne sur TikTok, je vais le faire, mais je le dis un peu à la blague, mais il faut s'ajuster à la clientèle. Je pense que, je vous le dis, globalement, 12-17, on est rendu à 75 %, c'est très bon, mais on aimerait ça qu'on ait 75 % partout, ce qui voudrait dire qu'on rejoindrait à peu près notre moyenne de 80 % parce qu'il y a des endroits qu'on a plus que 75. Donc, il s'agit de bien cibler certaines régions, particulièrement dans Montréal et Laval.
Mais vous l'avez mentionné, les communautés culturelles, il y a une difficulté à les rejoindre, ces gens-là. Je veux lancer de roche à personne, mais qu'est-ce qui fait que les communautés ethniques, les communautés religieuses sont plus difficiles à rejoindre?
Bien, en fait, je vais diviser le problème en deux, là, sans être trop technique, mais lorsqu'on tombe dans le bas de la fourchette de 12-17, entre 12 et 14 ans, ça nous prend une autorisation du parent pour être capable de vacciner. Alors donc, dans ce cas-là, c'est le parent qu'il faut rejoindre et non l'enfant. Et pour les rejoindre, bien souvent... Puis j'ai parlé à des responsables de communautés culturelles cette semaine là, ou ethniques et qui me disent qu'il faut retourner sur Facebook, parler aux parents, leur expliquer les bienfaits de la vaccination, comment ça va être important pour le retour à l'école. Donc, il y a une communication pour les 12-14 à faire avec les parents.
Okay.
Dans le cas des plus vieux, ben c'est peut-être nos médiums qu'on doit ajuster, comme je fais tantôt là. Quand je vous parlais de TikTok, par exemple, les gens veulent pas lire, ils veulent voir des petites vidéos courtes qui expliquent les bienfaits. On est en train d'identifier des influenceurs. Il faut pousser encore le bouchon un petit peu plus loin pour rejoindre tout ce monde.
Les 18-39 sont aussi considérés là, comme les jeunes, même si c'est une grande cohorte démographique. Les 18-39 sont aussi là, parmi les plus réfractaires à la vaccination. Monsieur Dubé, il y a eu la carotte. Là. On est allé à eux, il y a eu les campagnes de vaccination cool. On vous a vu en faire une vous-même. Il y a un vaccinobus. Avez-vous un bâton quand même dans votre coffre à outils?
Ben moi, j'aime pas le bâton pour être honnête avec vous, là, surtout lorsqu'on parle de vaccination. Je pense qu'il faut convaincre puis donner les bonnes explications. Moi, pour cette clientèle-là, dans les prochaines semaines, je pense que les gens doivent comprendre qu'il va y avoir des avantages à être doublement vaccinés. Là. Il faut je vous donne juste l'exemple de ceux qui vont aller aux États-Unis, ceux qui veulent être capables de voyager même à l'extérieur en Europe. Il va y avoir des exigences au niveau du transport, d'avoir des preuves vaccinales pour être capable de voyager au cours des prochains mois, parce qu'on sera probablement dans une continuité, puis je fais attention à mes mots, là, mais on le sait, là, le fameux variant, il est partout dans le monde, puis c'est pas tout le monde dans le monde qui est vacciné. Donc, c'est à nous de bien expliquer, surtout à ceux qui voyagent le plus, là, ces gens-là qui vont avoir besoin de cette preuve vaccinale-là. Il y a c'est des petits avantages, venez me dire, mais on est dans les... Là, on peinture les coins de mur. Là. On n'est plus dans le gros rouleau avec la peinture sur le mur. On est en train de faire les petits détails. Puis c'est correct. Je pense qu'on est tellement content d'avoir 80 % de la population, mais il est normal que dans certaines catégories, il faut travailler un petit peu plus fort, mais je pense qu'à date, ça va très bien.
Dans le coffre à outils, vous me parlez de vous avez pas aimé l'expression « le bâton ». Parfait. Oh. Vous me dites que pour voyager, ça va prendre des preuves vaccinales. Les gens vont moins souvent en Floride qu'ils vont dans les bars, dans les restos. Est-ce que ça, c'est dans le coffre à outils d'exiger une preuve de vaccination pour des activités semblables?
Pas pour le moment. Je pense pas qu'on va avoir besoin d'être là. Parce que si on atteint notre... D'abord, vous vous souvenez, on a 2,80% à obtenir. Le premier 80%, on l'a déjà pour la première dose. Pour la deuxième dose, on est à 20%. Et si on a la vitesse de croisière qu'on a en ce moment, M. Lagacé, là, 1 à 2% par jour, c'est ça qu'on vaccine en ce moment, en deuxième dose, on n'aura pas d'enjeu d'être à 75-80% à la fin de l'année. On n'aurait pas besoin de bâton. Et c'est là qu'on serait capable d'avoir, et c'est ça que les gens doivent voir comme objectif, c'est d'être capable d'aller dans les bars parce qu'on a encore des restrictions dans les bars, le nombre de personnes, etc. Donc, ces gens-là là, qui se promènent, là, qui ont beaucoup de contacts, là, les 20-40 ans, ben moi, je veux leur dire, à l'automne, il faudrait être dans un environnement où on va être un des meilleurs pays au monde avec le meilleur taux de vaccination, autant comme on a réussi pour la première dose parce qu'on est à 80, mais qu'on veut la même chose dans la deuxième dose. Donc, c'est ces petits avantages-là qui vont faire qu'au lieu d'avoir encore quelques restrictions dans les restaurants, dans les bars, dans les spectacles, qu'on serait capable d'avoir un centre Bell qui soit complètement ouvert pour accueillir nos gagnants de la Coupe Stanley.
je vais revenir sur le hockey tantôt. Parlons de la suite des choses dans le système de santé. Écoutez, le système de santé a été capable de piloter une campagne de vaccination qui, comme le Canadien de Montréal en série, a beaucoup surpris là, dans les deux cas. Personne ne les attendait à l'endroit où ils sont présentement. Mais écoutez, il y a des problèmes dans le système. L'accès à des médecins de famille, aux urgences, voir un médecin aux urgences rapidement, sans attendre des heures et des heures, la pénurie d'infirmières. Tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça va être plus difficile à régler que la campagne de vaccination?
Bien, c'est plusieurs enjeux. Là. Avec la campagne de vaccination, on avait un gros enjeu, c'était de vacciner. Quand vous me parlez de nos gros cailloux, là, tout ce qu'on a à faire en termes d'urgence, soins à domicile, oui, c'est sûr. Sauf que les gens sont fiers, puis on a prouvé que le réseau était capable lorsqu'on se donnait des objectifs clairs, puis qu'on allait chercher non seulement la fierté, mais la connaissance de notre réseau. Tout le monde était même surpris de la qualité du service à clientèle qu'on avait dans les centres de vaccination. Mais vous savez quoi? Dans nos hôpitaux, là, une fois qu'on est rentré dans le système, les gens apprécient la qualité des services qu'ils ont. Alors, moi, mon objectif, c'est d'être capable de faire rentrer les patients, les clients, le plus facilement possible dans le réseau. On va avoir accès, par exemple, rattraper nos chirurgies, mais c'est de rentrer dans la machine. Être capable lorsque vous êtes sur une liste d'attente de soins à domicile, ben de rentrer plus facilement sur la liste. Donc, on l'a vu qu'on est capable d'accueillir ces gens-là dans la vaccination. Il y a un système de rendez-vous qui a très bien fonctionné. Alors, je pense qu'on est capable de prendre tous les beaux succès qu'on a eu dans notre dossier urgent, que j'appelle, et transférer ça dans nos priorités là, pendant qu'on se prépare pour l'automne.
Mais il y a quand même un problème d'accès. Là. Vous êtes le ministre de la Santé depuis seulement un an, mais vous vivez au Québec, M. Dubé, vous l'avez vu aller, ce système-là. Là. Est-ce que c'est un problème d'argent ou d'organisation?
C'est pas un problème d'argent parce qu'on pompe énormément d'argent. Je pense qu'il y a un enjeu particulièrement de main-d'œuvre. On l'a vu, là, on avait un personnel qui était épuisé dans la dernière partie, là, dans les 6 derniers mois, parce que ça faisait trop longtemps. Moi, je suis excessivement content qu'on ait réussi à s'entendre, notamment avec nos infirmières dans les derniers jours. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et avec le reste du personnel de santé, là, Mme Lebel fait un très bon travail à finaliser les négociations. Mais on a promis que notre personnel se reposerait cet été. Moi, je pense qu'on peut repartir sur des nouvelles balises. Je travaille avec, pour l'automne, je travaille avec Mme McCann pour aller chercher d'autres infirmières, un peu comme on a fait avec les préposés aux bénéficiaires. On en a ajouté. Je pense qu'on peut ajouter du personnel. C'est pas vraiment un enjeu de ressources financières. C'est vraiment un enjeu de mettre le bon personnel à vous. Mais de leur donner un environnement de travail où ils sont pas toujours épuisés. Je pense que on a montré que dans les CHSLD, ça a fait une grosse différence d'avoir ajouté à peu près 8-9 000 personnes. Ben, je pense qu'il faut faire dans des chiffres différents, mais la même chose avec notre personnel infirmier. Et ça va donner un environnement de travail meilleur pour nos employés, puis encore plus important pour nos patients.
Si le Canadien passe en finale, il va avoir de la pression pour que le Centre Bell accueille plus que 3500 personnes. Cette pression-là, est-ce que c'est une variable qui va influencer la santé publique?
Non. Pour être très clair, là, moi, je suis... je fais attention parce que c'est... Je suis un peu superstitieux. Là. On va attendre le match, on va attendre le match de... le dernier match, le fameux 24. Imaginez-vous quand même. Là, Régent Tremblay, dans son...
lancer compte.
Dans son lancer compte, pourrait en rêver d'un scénario comme ça. Mais sérieusement, jusqu'à date, vous l'avez vu, le docteur Arruda, il a pris des décisions difficiles. Puis c'est une des raisons, avec son équipe, qu'on l'a suivi, puis qu'on est dans la bonne situation où on est aujourd'hui, que les Québécois peuvent profiter de leur été. On va dire ça comme ça. Alors, je pense que nos Canadiens sont capables de gagner avec peut-être un plus petit public, mais avec le grand public qui sent derrière.
Merci.
Je vais laisser le docteur Arruda finaliser ça dans les prochaines heures.
Ben, merci, M. Dubé. On vous souhaite de prendre au moins quelques jours de vacances cet été.
Moi, avec plaisir, vous êtes certain que je vais en prendre.
Merci beaucoup.
Puis vous aussi, M. Lagacé, et à toute votre équipe.
Je vais essayer, mais vous avez travaillé plus fort que moi cette année.
Oh, non, on a tout fait ça ensemble. Merci beaucoup.
Salut.
Bonnes vacances.
C'était Christian Dubé, le ministre de la Santé.